Europe 1.
16h-18h.
Historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Si le watt est aujourd'hui l'unité de mesure de la puissance électrique, soit la quantité d'énergie pendant un temps donné, James Watt, lui, a mis toute la sienne d'énergie au service en effet d'une machine, la machine à vapeur. S'il n'en est pas l'inventeur, l'ingénieur écossais l'a tellement perfectionné qu'il a fait basculer les pays occidentaux dans l'ère de la révolution industrielle. Regardez cet enfant de 6 ans, allongé sur le parquet, un crayon à la main, en train de gribouiller des lignes sur une feuille. Difficile de présager son extraordinaire destin. Quoique, en y regardant de plus près, le petit James est en train de résoudre un problème de géométrie. Autour de lui s'entassent des jouets qu'il a déjà démontés et remontés 10 fois. Né à Greenock, au bord d'un fjord écossais, en janvier 1736, James Watt a tout d'un petit génie, mais à cause de sa santé fragile, il est plus souvent à la maison qu'à l'école. C'est donc son père qui lui apprend à écrire et à compter, et sa mère à lire. Le plus clair de son temps, James le passe dans la boutique de son père, constructeur naval, à admirer les charpentes des bateaux et les ustensiles de navigation. Mais on peut aussi le surprendre assis à la table de la cuisine, une théière à la main. Non pas pour se servir une tasse de thé, mais son esprit scientifique étant déjà fort aiguisé, pour expérimenter. Il remarque que lorsqu'on place une cuillère en argent au-dessus du récipient brûlant dont on a ôté le couvercle, des gouttelettes de condensation se forment. C'est fascinant, la vapeur. Comme son frère cadet John reprend le travail du père, James est libre de faire ce que bon lui semble. Selon la coutume écossaise, la profession paternelle doit être adoptée par l'un des enfants. À 18 ans, il se rend donc à Londres chez un certain John Morgan, constructeur d'instruments de mathématiques et de marine. Il y apprend à construire et réparer des cadrans, des boussoles et des balances. Mais le manque d'argent le contraint à retourner à Glasgow au bout d'une année d'apprentissage seulement, au lieu des 7 obligatoires. Les corporations d'arts et métiers refusent à celui qu'elles voient comme un intrus le droit d'ouvrir un atelier. Alors que le sort de Watt est incertain, l'université de Glasgow intervient et donne sa chance au jeune homme de 21 ans. Logé dans une chambre de la faculté, James Watt a désormais pour mission l'entretien des instruments scientifiques. Pendant 6 ans, le voilà qui engrange des connaissances et acquiert du savoir-faire. Il fait preuve d'une détermination acharnée. Jamais il ne lâchait prise qu'après avoir entièrement éclairci la question proposée, soit qu'il la réduisit à rien, soit qu'il en tira quelques résultats nets et substantiels, dira de lui l'un de ses amis. Un jour de 1763, James Watt reçoit une commande urgente, réparer la maquette d'une machine expérimentale destinée à l'enseignement. Cette maquette, c'est le modèle réduit de la pompe à feu que Thomas Newcomen a imaginé en 1712. Cette pompe, actionnée par la vapeur, a pour but de drainer les galeries des mines et éviter les coups d'eau qui font perdre la vie à tant de mineurs. S'il travaille en parallèle sur d'autres commandes, c'est ce drôle d'engin qui obnubile l'ingénieur écossais. Watt se jette corps et âme dans l'analyse de la machine. Il veut comprendre la nature de la vapeur et sa circulation entre les différentes parties de la machine. Mais surtout, il veut améliorer son rendement. James Watt ne sort plus de sa chambre, cravache comme un dingue et va même jusqu'à apprendre le français et l'allemand pour lire des ouvrages de référence sur le sujet. Forcément, il s'endort souvent d'épuisement en plein labeur. Jusqu'au jour où, après 2 ans d'acharnement, la solution lui apparaît miraculeusement. Lors d'une promenade dans le parc de Glasgow, Watt a soudain une idée de génie. Utiliser 2 cylindres au lieu d'un pour éviter de gaspiller de la vapeur. Fier de sa trouvaille technologique, il met au point sa nouvelle machine, plus performante et moins gourmande en charbon. En Cornouailles, les mines sont justement au bord de la ruine car les machines engloutissent trop de charbon. C'est alors que Watt a l'idée de s'improviser voyageur de commerce. Il se rend sur place pour proposer aux propriétaires des mines, non pas d'acheter la machine, mais de payer le droit de l'utiliser pour un tiers de la somme qu'il dépensait en frais de fonctionnement jusqu'alors. Et pour vanter ses avantages, Watt invente une nouvelle unité de mesure de la puissance, le cheval vapeur, dérivé de la force des chevaux de mine. Il montre ainsi que sa machine équivaut à la puissance de 20 chevaux. C'est énorme! L'argumentaire séduit. Et Watt vend ses premières machines, sauvant ainsi les mines de Cornouailles. Grâce à cela, il a ses entrées auprès des industriels du secteur. James Watt le sait. Dans les mines comme ailleurs, sa machine n'est pas prête de s'arrêter de tourner. En ce milieu du XVIIIe siècle, les manufactures européennes utilisent des roues hydrauliques pour actionner les machines. Le problème, c'est que l'eau, il faut aller la trouver. Elle conditionne donc l'emplacement des usines. La grande nouveauté qu'amène la machine à vapeur, c'est qu'en maîtrisant l'énergie mécanique, l'homme peut choisir d'en créer où bon lui semble. Le cerveau de Watt est en ébullition. Il veut encore améliorer sa machine, mais pour cela, il a besoin d'argent. S'ensuit alors une véritable saga industrielle. C'est déjà grâce à la contribution financière de son ami Joseph Black, médecin à l'université de Glasgow, que Watt était parvenu à créer un petit moteur d'essai en 1766. Il trouve ensuite un partenaire commercial en la personne de John Roebuck pour déposer un brevet, mais le pauvre homme fait faillite 7 ans plus tard. À partir de 1775, James Watt décide alors de s'associer avec Matthew Boulton, le plus puissant des métallurgistes anglais installé à Birmingham. Les deux hommes fondent la manufacture Boulton & Watt. James Watt peut dès lors travailler à plein temps et à toute vapeur sur son moteur. Le succès est immédiat. Son premier moteur à vapeur, bicylindre et rentable, arrive sur le marché le 8 mars 1776. Les industries se l'arrachent, notamment les usines de coton, qui peuvent ainsi fournir pour la première fois des vêtements bon marché au grand public. En 1800, à l'expiration du brevet sur la machine à vapeur, Watt se retire. Les idées neuves se bousculent. Les ingénieurs y vont à fond et envoient de la vapeur à haute pression. Lui savait bien que c'était une mauvaise idée. Résultat, en Angleterre, entre 1800 et 1870, 1600 explosions de chaudières à vapeur font plus de 5000 victimes. Le progrès a aussi ses limites. Mais la vapeur poursuit son avancée. L'énergie thermique révolutionne le transport maritime et terrestre. James Watt meurt en août 1819 à l'âge de 83 ans à Birmingham, en Angleterre, après avoir plongé l'Europe dans une nouvelle ère, celle de la révolution industrielle, et donné son nom, sans le savoir, à la mesure de la puissance de l'énergie que le monde entier utilise aujourd'hui. What a revolution!
Europe 1, historiquement vôtre.